Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie. En cette année électorale, les sociologues et autres observateurs de la vie politique et intellectuelle française présentent comme une grande nouveauté le rôle d'Internet dans la campagne présidentielle. La presse, qui garde son importance, a pourtant tendance à s'effacer devant d'autres médias par lesquels tout citoyen peut désormais s'exprimer. Victoire de la démocratie, sans nul doute, il suffit de voir le niveau de participation au premier tour des élections présidentielles pour s'en convaincre. Internet, les forums de discussion, les blogs semblent avoir donné un nouveau souffle au débat public. Alors, cette effervescence intellectuelle est-elle inédite? Est-elle pour autant une nouveauté? Eh bien, permettez-moi de ne pas en être si sûr. Il y eut un âge, en effet, dans notre histoire, où la presse eut une heure de gloire bien plus supérieure à celle de notre époque. On appelle cette époque l'âge éditorial, une période de notre histoire qui nous renvoie à l'entre-deux-guerres en France sous la Troisième République. L'ère universitaire allait sur le déclin, tandis que se développaient les essais et que les grandes signatures aussi se retrouvaient en bas des pages des journaux. Des journaux, d'ailleurs, dont la pluralité d'opinions ferait pâlir notre époque qui brandit la liberté d'expression en versant, parfois, le plus souvent dans le politiquement correct. Régis Debray décrivait cette époque, cet âge éditorial, comme une alliance entre trois branches, trois fonctions, celle de critique, celle d'auteur et celle d'éditeur. Les premiers noms qui nous viennent à l'esprit sont les suivants, Gide Polan autour de la NRF, Gaston Gallimard, Bernard Grasset, Artem Fayard pour les éditeurs, Maurras Daudet-Bainville autour de l'Action française, Daniel Alévi bien sûr, mais aussi Julien Binda, Romain Rolland et il y eut aussi, et enfin, Albert Thibaudet. Le personnage est peu connu et pourtant l'œuvre d'Albert Thibaudet est essentielle, comme en témoigne la réédition de ses réflexions politiques chez Robert Laffont dans la collection Bouquins. Albert Thibaudet, critique, littéraire, historien, philosophe, archétype de l'écrivain sous la Troisième République, c'est ce que je vous propose de voir avec vous dans cette nouvelle émission d'Un jour dans l'histoire. Michel Lémarie, bonjour.
Bonjour Christophe Dickès.
Vous êtes professeur agrégé, docteur en histoire, vous travaillez à l'université Lille 3 et à Sciences Po Paris, et vous avez remporté l'an dernier le prix Drouin de Lhuis pour votre biographie politique d'Albert Thibaudet, un ouvrage paru aux éditions Septentrion, les presses universitaires du Septentrion. Alors vous êtes spécialiste de la pensée politique, notamment de cette période que l'on appelle la Belle Époque. Comment, Michel Lémarie, êtes-vous arrivé à Thibaudet? Quelle est la genèse de votre sujet?
Eh bien, cette genèse, elle est à la fois personnelle et générale. Personnelle parce que j'ai fait des études de lettres avant de revenir à des études d'histoire à Sciences Po, particulièrement accueillant dans la mesure où la grande figure de René Raymond, précisément, était de celle qui conduisait à dépasser les barrières disciplinaires, à la fois à être bien sûr historien, s'intéresser aux idées politiques, mais également puiser dans le fond de la littérature, et comme vous le disiez, puiser dans ce monde intellectuel, dans ce bouillonnement intellectuel qui était celui à la fois, qui a été celui de la Belle Époque et qui était celui de l'entre-deux-guerres. Et à cet égard, Thibaudet, c'est un des personnages phares. On sait, c'est le critique littéraire de la Nouvelle Revue française dans l'entre-deux-guerres. C'est aussi l'auteur des Princes Lorrains, de la République des professeurs et des idées politiques de la France.
Alors, vous avez appelé votre biographie Albert Thibaudet « L'outsider du dedans ». Alors, c'est souvent l'éditeur, on le sait, qui choisit le titre d'un livre. Et quelque chose me dit que dans le cas présent, c'est vous qui avez retenu ce titre. Que signifie « L'outsider du dedans » ?
Eh bien, « L'outsider du dedans », c'est une expression qui est employée par Paul Ricoeur pour définir Michel de Certeau. Alors, je l'ai utilisé, bien évidemment, dans un contexte tout à fait différent. Thibaudet est dedans. Il est, effectivement, pleinement dans la production éditoriale. Il écrit chaque mois sa chronique dans la Nouvelle Revue française. Il écrit aussi dans de nombreuses autres revues ou journaux français et européens. Et ce point sur l'Europe est particulièrement important. Il est aussi un des premiers essayistes politiques. Et il est dedans. Il participe pleinement donc de cette activité éditoriale. Il va jusqu'à écrire 100 articles par an. Absolument considérable. Mais il demeure toujours excentré par rapport au milieu de la NRF, par rapport au milieu de la Nouvelle Revue française, et cet excentrement est figuré par les trois pôles entre lesquels il navigue en quelque sorte. Tournu, en Bourgogne, en Saône-et-Loire, qui est sa ville d'origine à laquelle il demeure attaché, Paris, bien sûr, capitale du royaume, et Genève, où il devient professeur à l'université en 1924, au moment donc de l'âge d'or de la Société des Nations. Un poste d'observation donc absolument incomparable.
Donc l'outsider ?
Outsider, il est dedans, il est dehors. Il est à la fois dans la production éditoriale de son temps, mais il est dehors, il n'appartient pas au comité de la Nouvelle Revue française, et il est sans cesse entre ces trois villes, entre ces trois lieux qui lui sont également chers.
Alors nous allons bien évidemment revenir sur cette personnalité, ce caractère, ce personnage en marge, c'est une expression que vous utilisez, monsieur Lemary. Mais venons-en tout simplement à ses origines. Quelles furent, dans un premier temps, ses origines ?
Bien, nous le disions à l'instant, Thibaudet, c'est un bourguignon. Il est né à Tournu en 1874 et donc il va demeurer constamment attaché à cette région où il est ancré. Son père est un notable, un petit notable radical. Il sera maire de la ville de Tournu et dans La République des professeurs, par exemple, Thibaudet évoque ses réunions politiques auxquelles son père l'emmenait lorsqu'il était tout jeune enfant et adolescent. Et d'ailleurs, la citation de Thibaudet, la plus célèbre peut-être, que je me permets de vous donner, illustre admirablement cette autodéfinition de Thibaudet. C'était un bourguignon assez placide, un peu malicieux, d'allure vulgaire, critique littéraire de profession, qui circulait dans les vignes avec la bonne conscience et l'épicurisme actif d'un vigneron entre ses ceps, d'un dégustateur à tasse d'argent entre les tonneaux. Voilà, on a à la fois le Thibaudet essayiste, le Thibaudet qui s'intéresse à la vie politique et déjà aussi, ce qui constitue une des caractéristiques de Thibaudet, ce style qui lui appartient en propre, cette faconde, et fréquemment, sous sa plume, reviennent précisément, comment serait-il autrement dans une région de grande production vinicole, des allusions à la vigne, au vin, au travail du vigneron.
Il est marqué par les questions politiques à l'époque ou...
Non, à prix dire, il est d'abord marqué par une formation exceptionnelle. Thibaudet a une triple formation. C'est un littéraire. Il fait ses études en province et à Paris. C'est quelqu'un qui a une connaissance véritablement encyclopédique, à la fois de l'Antiquité latine, de l'Antiquité grecque d'abord, et puis c'est quelqu'un qui est nourri aussi de la littérature classique, et c'est quelqu'un qui, dans ses premières années, a été symboliste. Il s'est lui-même essayé à être créateur, mais ses œuvres en fait ont avorté, sauf quelques inédits que j'ai pu trouver et que j'ai mis en évidence dans cette biographie. Donc c'est un homme qui connaît admirablement la littérature, les littératures françaises et européennes également. D'autre part, c'est quelqu'un qui est un élève de Bergson. Et je crois que l'on peut dire que c'était un des élèves avec lesquels Bergson a entretenu une correspondance suivie, qui se trouve à la bibliothèque Doucet.
Nous le verrons d'ailleurs plus tard, Bergson a une grande influence sur sa vie et sur son œuvre.
Tout à fait, tout à fait. Et Thibaudet est biadmissible à l'agrégation de philosophie. Et puis enfin, c'est un historien. Il est agrégé d'histoire la même année que Marc Bloch, et donc il combine en quelque sorte ses qualités que chacun peut envier, celle d'être à la fois littéraire, philosophe et historien.
Il a une puissance intellectuelle étonnante.
Il a une puissance intellectuelle étonnante et une fécondité également considérable. C'est-à-dire que je crois qu'un de ses intérêts, un des intérêts de son œuvre, pour ce qui est de son époque et pour nous encore, c'est qu'il est à même de mettre en rapport des séquences diverses. Il est à même d'établir des liaisons. C'est un agent de liaison entre littérature et politique, entre culture et histoire et philosophie. C'est un professeur qui ne s'intéresse pas beaucoup à l'enseignement lorsqu'il est professeur de lycée. C'est un médiocre pédagogue, chahuté, j'ai retrouvé des témoignages de ses étudiants.
Il n'a pas la vocation de professeur.
Non, là aussi, il est ailleurs, il est aussi là, c'est aussi un outsider à cet égard. Et il en vient à la critique, dit-il d'ailleurs dans une lettre à Bergson, il en vient à la critique par hasard. C'est-à-dire que son ami, c'est un ami Jean Royer, qui dirige une de ces petites revues qui fleurissent à l'époque, qui l'appelle à la Phalange.
Alors, avant de venir à la Phalange et j'allais dire à la naissance de ce critique, peut-être deux questions pour replacer le personnage dans son époque. Il naît en 1874, c'est bien cela. Bon, 1874, c'est le lendemain de la guerre franco-allemande. Est-ce qu'il est touché par la question franco-allemande ?
Il sera touché par la question franco-allemande, essentiellement par la guerre qu'il va faire en tant que poilu de l'arrière, comme il le dit, et il va être surtout touché par la question franco-allemande dans l'entre-deux-guerres avec les princes lorrains que...
Donc dans sa jeunesse, sa jeunesse n'est pas tant marquée par cette question.
Non, elle n'est pas marquée ni par cette question, ni par une question qui, bien évidemment, mobilise beaucoup à la fin du siècle, l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, dans l'affaire Dreyfus, il ne s'engage pas plus d'ailleurs que son maître Bergson. En revanche, dans ses analyses politiques ultérieures, il va sans cesse revenir sur cette affaire Dreyfus, sur l'histoire de ce que Charles Péguy appelait le parti intellectuel et sur ce que lui-même, Thibaudet, appelle à la suite de Renouvier le spirituel républicain.
Alors, je reçois Michel Lemary, auteur du livre « Albert Thibaudet, l'outsider du dedans », paru aux presses universitaires du Septentrion. Michel Lemary, nous allons voir la naissance du critique littéraire, si vous le voulez bien, après cette première pause.
La maladie d'Alzheimer est un domaine de la recherche qui est en friche. Il reste encore beaucoup à découvrir. Canal Academy vous propose un état des lieux avec professeur Jean-Jacques Auve, spécialiste du vieillissement du cerveau, et le docteur Jean Petitpré, qui est président de la Fondation France Alzheimer. Nous vous proposons également de découvrir cette association France Alzheimer qui œuvre à une meilleure prise en charge de la maladie et vient en aide aux familles. Ces deux émissions sont disponibles sur notre site.
Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois Michel Lemary, auteur du livre « Albert Thibaudet, l'outsider du dedans », un livre qui a reçu le prix Drouin de l'Académie des sciences morales et politiques. Alors, nous avons évoqué cette naissance, ces débuts d'Albert Thibaudet, cette carrière universitaire. Il sera malgré tout professeur à Genève. Sa voix, visiblement, c'est la critique littéraire. Comment naît-il à la critique littéraire ?
Alors, il est à la critique littéraire parce que, à la suite d'un voyage en Grèce, un de ses amis, Jean Royer, qui est le directeur de la petite revue La Phalange, lui demande de livrer ses impressions. Et, de fil en aiguille, il va se livrer à des critiques déjà très acérées, très, très personnelles, et une de ces critiques va déterminer en quelque sorte le cours de sa vie, puisqu'il rend compte d'un puis deux ouvrages d'André Gide. André Gide, attentif à ce qu'on disait de lui, ne manque pas de remarquer les critiques élogieuses dont il est l'objet dans cette revue, et il va appeler Thibaudet à la Nouvelle Revue Française, en même temps d'ailleurs que Jérôme et Jean Tarot.
Alors vous montrez bien d'ailleurs, hein, c'est un des grands intérêts de votre ouvrage, que les revues littéraires sont à l'époque un lieu vraiment de sociabilité et j'allais dire des centaines d'auteurs, un réseau d'auteurs se connaissent et créent donc ce lien de sociabilité, de connaissance, avec une ouverture d'esprit qui est étonnante, et comme nous allons le voir tout à l'heure, notamment avec les fréquentations de Barrès et de Maurras.
Oui, tout à fait. Nous avions, avec Jean-Yves Mollier et Jacqueline Despatins, coordonné un colloque qui s'intitulait « La belle époque des revues ». Le jeu de mots est évident, les revues de la belle époque. La belle époque est une très belle époque pour les revues. Et je vous rejoins tout à fait quand vous dites que ces revues, d'abord elles sont très nombreuses, quelquefois elles sont éphémères, d'autres fois elles durent très longtemps, comme la Revue des Deux Mondes, par exemple. Mais aussi, ce sont des revues qui s'intéressent à la fois à la littérature, aux arts en général, à la politique, à la vie nationale, à la vie internationale.
Elles sont beaucoup plus importantes qu'elles ne le sont aujourd'hui, ça c'est clair.
C'est absolument certain. Absolument certain, en termes de nombre et en termes également de différences de sensibilité, elles sont tout à fait considérables. Vous disiez tout à l'heure, pour commencer, le nombre de journaux, l'importance de la presse à cette époque. Il en va de même pour ce qui concerne les revues, petites et grandes.
Alors, quand entre-t-il à la NRF ?
Il entre à la NRF en fait en 1912. Et d'abord, il n'y entre pas comme de façon permanente. Il vient remplacer, suppléer Marcel Drouin. Et il va être en quelque sorte, dans les années de l'avant-guerre, de l'avant-première guerre mondiale, une variable d'ajustement. Il est très précieux pour une revue, parce que d'abord c'est un homme qui rend sa copie, et c'est un homme qui est particulièrement prolixe, et qui admet que l'on puisse, à certaines fois, couper dans son texte. Donc il devient, peu à peu, indispensable, et il devient un des piliers de la Nouvelle Revue Française, et il devient le titulaire de la chronique de la littérature. Et c'est seulement au milieu des années 20, très précisément en 1928, que les réflexions sur la littérature deviennent des réflexions tout court, et s'ouvrent beaucoup plus largement à la vie politique française notamment.
Alors, un autre personnage de l'époque fait le lien entre la littérature et la politique, et j'allais dire un personnage, mais il y en a plusieurs, mais Thibaudet est lié à deux d'entre eux tout particulièrement, ce sont Barrès, Maurice Barrès, et Charles Maurras. Alors, j'allais dire, avec notre regard du début du XXe siècle, on aurait tendance à avouer Maurras et Barrès aux gémonies. Bon, il y avait un lien entre ces trois personnages.
Non, je ne vous rejoins pas. Le Lorrain que je suis refuse ce propos concernant Maurice Barrès. Et quant à Maurras, il a fait l'objet d'un premier colloque, récemment, le mois dernier, sur l'Action française, culture, société, politique, qui est le premier d'une série de colloques qu'avec d'autres, nous allons consacrer à Maurras et au maurrassisme en France et à l'étranger. Donc là, permettez-moi de ne pas être d'accord avec vous. Alors la caractéristique de Thibaudet, c'est que c'est un observateur non engagé. Et Charles Maurras le qualifiait de bilatéral, qui est extrêmement précieux, n'est-ce pas, lorsque l'on fait ou de la critique littéraire ou de la critique politique, de ne pas avoir des œillères. Et ce qui, parmi les familles politiques de la France, telles que Thibaudet les analyse, il y en a deux qui l'intéressent plus particulièrement. Le radicalisme, qu'il connaît bien. J'appelais Thibaudet en quelque sorte un radicalisant du dehors. Il connaît bien le radicalisme, il voit son épuisement idéologique et son impuissance politique, et il l'analyse très précisément.
Qu'il met d'ailleurs en parallèle avec la crise de la démocratie, mais là, nous, enfin de la Troisième République, mais là, nous sommes plus dans l'entre-deux-guerres.
Tout à fait. Et d'autre part, il s'intéresse, et ce, dès avant la Première Guerre mondiale, à la pensée traditionnaliste d'un Barrès et d'un Maurras, avec lequel il entretient des correspondances suivies et sur les livres desquels il fait des critiques. Et les deux grands livres, enfin les trois grands livres, il va rassembler en quelque sorte sa pensée dans trois livres qui font partie d'une série qui s'appelle « 30 ans de vie française ». Immédiatement après la Première Guerre, il va consacrer un livre à Maurras, un autre à Barrès, et un autre, enfin, au bergsonisme.
Alors, il y a une amitié entre ces personnages ?
Difficile de dire d'abord que, par exemple, quelqu'un comme Barrès avait des amitiés, il avait des relations suivies. Chez Barrès, il admire le littérateur, le romancier. Il lui emprunte d'ailleurs quelques-unes de ces notions qu'il va théoriser, formaliser, la fameuse distinction entre boursier et héritier, par exemple. Et il va se détacher de Barrès, homme politique, dès lors que Barrès devient, après la Première Guerre mondiale, au moment de l'occupation de la Roure, un homme-drapeau un peu à la manière de Déroulède. Car Thibaudet, peut-être le verra-t-on, c'est un homme qui fait la guerre, il fait la guerre dans la territoriale, mais c'est un homme qui est un homme pacifique, sans être pacifiste. Donc pour lui, l'occupation de la Roure est une erreur, et il condamne à cet égard dans Les Princes Lorrains les personnages de Barrès et de Poincaré qui ont conduit à l'occupation de la Roure. Pour Maurras, c'est autre chose. Avec Maurras, Thibaudet partage d'abord le goût de la Grèce et a également, comme Maurras, une immense culture. Ils ont des lectures communes, je le disais à l'instant, ils ont des échanges épistolaires qui se poursuivent en quelque sorte par les critiques. Mais, et ceci me semble particulièrement intéressant, dans son ouvrage Les idées de Charles Maurras, Thibaudet dit du théoricien de l'Action française que son œuvre est une véritable fête aux idées, mais d'autre part, il considère que le retour de la monarchie, c'est une idée de poète, et que ce retour à la monarchie ne se fera pas. Vous voyez donc, on peut avoir à la fois un intérêt, de l'estime, un certain nombre de points communs, mais également ne pas partager toutes les options politiques. D'ailleurs, à propos d'options politiques, lui-même, là aussi, Thibaudet, c'est un outsider du dedans, parce qu'il ne vote pas, semble-t-il, il ne vote pas notamment au moment du cartel des gauches en mai 1924, il ne vote pas plus que Daniela Levy.
Il y a un paradoxe tout de même de voir en Maurras un poète de la monarchie. Ça renvoie en quelque sorte à un certain romantisme, alors que Maurras pourfendait le romantisme et par ailleurs démontrait la monarchie comme un théorème.
Certes, il essayait de démontrer la monarchie comme un théorème, mais souvenez-vous de la phrase de Maurras dans « Quand les Français ne s'aimaient pas » en 1916, où Maurras dit lui-même qu'il en est venu à la politique par la littérature. Donc, je crois que chez Maurras, certes, il faut toujours voir le théoricien politique, le doctrinaire, mais également, il ne faut pas oublier, je crois, l'homme de lettres. N'oubliez pas qu'il était lui-même aussi poète.
Plus d'une centaine d'ouvrages. Alors, on le voit, hein, il y a vraiment ce lien entre littérature et politique. Vous évoquiez tout à l'heure la NRF et Gide. Thibaudet va se démarquer de l'évolution de Gide, qui peu à peu se tourne vers l'international. D'ailleurs, vous avez une expression, vous dites « ni la nation, ni l'international ».
Exactement. Alors, il faut peut-être faire un retour en arrière. Thibaudet est mobilisé dans l'armée territoriale donc en 1914. Il appartient à ce parti des hommes de 40 ans dont parlait Charles Péguy. Et étant dans la territoriale, Thibaudet ne va pas être exposé en première ligne, il ne va pas être dans les tranchées. Donc il met à profit les loisirs que lui laisse cette vie quasi militaire, si je puis dire, pour écrire un très long poème qui s'appelle Le berger de Bellone, que j'ai pu retrouver, et puis surtout un de ses maîtres ouvrages, qui est La campagne avec Thucydide. La campagne avec Thucydide, c'est une histoire croisée de la guerre du Péloponnèse et de la guerre que Thibaudet est en train de vivre. Et je signale d'ailleurs que Madame Jacqueline de Romilly a placé en tête de la publication de la guerre du Péloponnèse, l'édition qu'elle en a donnée dans la collection bouquins, et l'a placé précisément la campagne avec Thucydide d'Albert Thibaudet.
Alors, si vous le voulez bien, Michel et Marie, quelle est la nature de cette analogie entre la guerre du Péloponnèse et la Première Guerre mondiale, qui à l'époque est considérée comme la Grande Guerre? C'est ce que nous verrons après cette seconde pause. Nous entamons la troisième partie de notre émission consacrée à Albert Thibaudet, l'outsider du dedans. Tel est le titre de votre ouvrage, Michel Lémarie. Vous êtes professeur à Lille 3 et à Sciences Po et vous avez remporté pour cet ouvrage le prix Drouin de Lully de l'Académie des sciences morales et politiques. Alors, nous en étions, Michel Lémarie, à l'époque de la Grande Guerre, qui est une époque majeure, hein, bien évidemment, un temps très important pour toute personne qui se penche sur la première moitié du XXe siècle. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque que la Grande Guerre va marquer les esprits et elle va d'autant plus marquer Thibaudet qu'il va se poser en observateur très précis de cette guerre, notamment, vous le disiez avant cette pause, en faisant l'analogie entre la guerre du Péloponnèse à l'époque antique et cette Grande Guerre qui éclate.
Alors la Grande Guerre, bien sûr, c'est pour chacun de ceux qui participent, une expérience existentielle, une expérience personnelle. Mais pour Thibaudet, c'est une expérience également intellectuelle, dans la mesure où il se livre à cette histoire croisée des deux guerres. Des analogies sont constamment établies. Par exemple, 1914 répète 431. Il pose la question de l'hégémonie sur le continent, en l'occurrence dans la Grande Guerre, la question également de la thalassocratie, la question des ententes, qui est extrêmement importante dans cette guerre de l'Antiquité. Et puis, il y a le modèle Thucydide. Thucydide, qui est la grande référence pour Thibaudet, comme d'ailleurs pour André Gide ou pour Jean Schlumberger. Alors, il y a, comme chez Thucydide, Thibaudet s'efforce de chercher les causes de l'un et l'autre conflit, la question de la domination de la mer, la rivalité d'Athènes et de Corinthe, de l'entente et de la triplice. Et ce que Thibaudet remarque aussi, ce sont les ressemblances, les analogies, mais également ce que doit faire tout historien, n'est-ce pas, les différences entre, par exemple, les véritables motifs de la guerre, la cause la plus vraie, comme le dit Thucydide, et puis les prétextes, les casus belli qui sont allégués de part et d'autre. Donc, les causes immédiates pèsent peu, montre-t-il, au regard des raisons les plus fortes, la volonté hégémonique, les rivalités commerciales, maritimes, coloniales, mais surtout, il y a une composante que Thibaudet met bien en évidence et qui, me semble-t-il, le fait être aussi un grand historien. L'historiographie contemporaine met en évidence la peur que l'Allemagne avait d'être encerclée, et notamment l'amplification de la menace russe. Et Thucydide, lui de son côté, disait que la cause la plus vraie et la moins avouée, c'est que les Athéniens, en s'accroissant, donnèrent de l'appréhension aux Lacédémoniens. Voyez donc la multiplicité des causes qu'envisage Thibaudet pour tenter d'expliquer la cause, le début de la guerre, le déroulement de la guerre. Une phrase, « Sparte comme Berlin, confiante dans la supériorité de ses forces continentales, croit à un coup de massue, à une guerre courte ». Et puis donc parallèle entre Lysandre et Foch, et surtout à la fin, la réduction du vaincu à son territoire continental, sans toutefois le détruire comme État. Thibaudet dit que l'Allemagne garde l'armature intérieure qui en fait un État. Et là, on retrouve Bainville. Le traité de Versailles, pardonnez-moi, le traité de Versailles, une paix trop douce. N'est-ce pas, parce qu'il est dur.
Alors, avant de venir au traité, il y a un aspect très intéressant dans l'œuvre de Thibaudet pendant la Première Guerre mondiale, c'est qu'il côtoie des soldats, lui qui est très solitaire. Il sort de cette solitude, finalement, en se faisant des camarades, en participant à cet esprit de groupe qui lui est étranger jusqu'à présent.
Et là aussi, c'est une autre façon d'être un outsider du dedans. Il est dedans, mais à la fois, il observe les hommes de son escouade. Il dit d'ailleurs qu'il est un caporal tout nominal. En fait, il n'exerce pas de pouvoir. Et il va faire des réflexions, notamment à Maurras, par exemple. Vous savez, au moment où Maurras parle de la part du combattant, pendant la Grande Guerre, qu'il conviendrait de verser à chaque combattant, Thibaudet allègue d'autres éléments qui, selon lui, font tenir les soldats. C'est le vin. Et il parle du dieu Pinard. Et donc, il y a une histoire également anthropologique de la guerre qui peut puiser dans Thibaudet à cet égard. Je note d'ailleurs que la campagne avec Thucydide est beaucoup mieux connue des hellénistes comme Madame de Romilly que des historiens du contemporain.
Alors, il analyse aussi les deux mythes dont on parle de manière régulière aujourd'hui dans les médias. Alors, soit en prenant parti pour l'un, soit en prenant parti pour l'autre. Le premier mythe, qui est celui du soldat qui a ce sentiment d'ardeur, de colère patriotique. Et le second mythe, qui présente un soldat plutôt passif, marchant seulement sur ordre. Est-ce que Thibaudet tranche entre l'un et l'autre mythe, ou bien tout simplement il les considère comme des mythes faux?
Ils sont également faux et également vrais. Vous savez que il y a, disons...
Vous répondez comme François Bayrou.
Il y a deux écoles, ma foi, la référence n'est pas forcément mauvaise, surtout pour ce qui concerne l'histoire. Vous savez qu'il y a deux écoles historiques, disons une école de la contrainte, une école du consentement. Eh bien, en fait, Thibaudet se situe entre contrainte et consentement.
Finalement, c'est une image juste, plutôt.
Moi, ça me semble être une image juste. Je crois qu'il est important, et vous allez trouver que je suis moi aussi bilatéral, mais je crois qu'il faut appréhender les deux éléments qui expliquent pourquoi, d'ailleurs, les Français ont tenu pendant cette guerre.
Alors, vous évoquiez tout à l'heure le traité de Versailles, il le critique sans nul doute, ce traité de Versailles, exactement comme le fait Jacques Bainville. Cependant, il diffère de l'école de l'action française en, vous l'aviez dit tout à l'heure aussi, sur la question de la roue et de la politique qui est menée par Raymond Poincaré en 1923. On retrouve dans ce sentiment l'idée qui est cher à Thibaudet, qui est l'idée européenne. Nous ne l'avons pas dit dans sa formation, mais les voyages, c'est... Oui. Bon, Thibaudet est curieux, et évidemment, la curiosité amène au voyage. Et dans ses voyages, il découvre cette Europe, et il aime cette Europe. Quelle est sa conception de l'idée européenne? Est-ce que c'est une conception qui rejoint, par exemple, la conception européenne d'un Aristide Briand entre les deux guerres?
Exactement. D'abord, pour Thibaudet, l'Europe, c'est une évidence. C'est une évidence physique, vous le rappelez à l'instant. C'est un homme qui connaît les cultures européennes et c'est un homme qui a beaucoup voyagé à travers l'Europe. Donc, une évidence physique pour Thibaudet que cette Europe, mais c'est également une évidence culturelle. C'est quelqu'un qui écrit dans la Revue de Genève, dans l'Europe Nouvelle, dans le Journal de Genève. Mais c'est aussi un européiste, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire un homme qui croit à l'Europe et qui appelle à sortir du seul domaine franco-français et à sortir de l'affrontement entre la France et l'Allemagne. Il écrit « Un soldat, c'est toujours deux soldats, celui qu'on lève ici et celui qu'on lui oppose là-bas ». Donc Thibaudet, au sortir de la guerre, appelle à réajustement de l'Europe, un dépassement des intérêts nationaux immédiats et à des hommes nouveaux capables de promouvoir des valeurs de paix, d'où la condamnation de Barrès et de Poincaré. Et dans une phrase étonnamment moderne, il écrit « Nous ne pouvons pas plus nous passer d'une Europe que d'une France ». Et cette idée de l'Europe, il va l'avoir mise en œuvre ou tenter de mise en œuvre lorsqu'il est professeur à Genève, et puis il va suivre surtout les tentatives et les échecs de la Société des Nations dans le courant des années 20, au début des années 30, et c'est pour cela qu'il, constatant cet échec, il pose un diagnostic là aussi très célèbre en 1932 quand il écrit que la dictature est devenue l'état normal de l'Europe et de l'Asie, on y entre en sortant du pont de Kehl et on y demeure jusqu'au Pacifique.
Alors, constat d'échec de la SDN, mais il ne critique pas ce que, par exemple, critiquait Bainville, pour revenir à lui, sur l'idéalisme de la SDN.
Si, parce qu'il voit qu'il y a une inadéquation, en ce sens-là, Thibaudet n'est pas original. Il va constater l'inadéquation entre les ambitions de la Société des Nations et la faiblesse des moyens qui lui sont alloués en vérité. Et puis surtout, et là, Thibaudet s'inquiète beaucoup à cet égard, moins dans ses essais politiques que dans les articles qu'il livre dans les revues françaises ou européennes. Il voit la montée ou la remontée des nationalismes. Et son diagnostic est très pessimiste. En fait, il va aller, en quelque sorte, en s'inquiétant. Il constate, par exemple, en 1934, que pour ce qui concerne la politique intérieure après le 6 février 34, il dit « un spatium nouveau d'après-guerre a commencé ». Il rejoint Brasillac, notre avant-guerre, mais un nouveau spatium a commencé à la fois en politique intérieure, après le 6 février 34, mais également en politique extérieure.
Donc cette nouveauté, est-ce qu'elle renvoie Thibaudet à l'analyse de l'émergence des totalitarismes? Est-ce qu'il conçoit ce phénomène totalitaire comme un phénomène nouveau? Vous parliez tout à l'heure du nationalisme, de la résurgence des nationalismes. Est-ce qu'il place ces nationalismes dans la filiation des nationalistes du 19e siècle? Ou bien au contraire, il décèle dans le totalitarisme émergent une nouveauté?
Pour ce qui concerne l'analyse des totalitarismes, vous savez qu'elle a été pensée avec beaucoup de difficultés. Je crois que la première véritable occurrence, c'est
Hannah Arendt.
Oui, et Élie Halévy en 1936 avec L'ère des tyrannies. Thibaudet ne perçoit pas la spécificité du totalitarisme soviétique et il semble voir plutôt dans ce qui se passe en Allemagne une résurgence d'un nationalisme allemand.
Là encore, dans la lignée de l'Action française, finalement.
Plutôt, oui, tout à fait. C'est plutôt cela, oui.
Alors, il y a cette crise européenne, mais il y a également cette crise intérieure, incarnée notamment par le 6 février 1934. Est-ce que Thibaudet, en critique, propose une réforme, a 10 idées tout simplement de réforme, exactement comme à chaque crise de l'État français, eh bien, chacun arrive avec son lot de réformes. Est-ce qu'il pense à cette réforme intellectuelle et morale ?
Alors, pour dire les choses là de façon tranchée, je crois que Thibaudet est un observateur de la Troisième République absolument extraordinaire, notamment lorsqu'il étudie dans les idées politiques de la France les six familles politiques qui composent un système, et il insiste d'ailleurs, un système en mouvement, c'est ce fameux sinistrisme, ce mouvement sinistrogyre qui voit se créer, notamment à gauche et à l'extrême gauche, des formations nouvelles. Devant le 6 février 34, il est effrayé et surpris comme tous les républicains, car Thibaudet est un républicain. Et en ce sens d'ailleurs, il se différencie de l'évolution d'un Daniel Halévy, que l'on pense à Décadence de la Liberté en 1931, ou qui est l'évolution ultérieure de Daniel Halévy. Comme d'autres essayistes ou comme d'autres politiques, il sent bien, il voit bien que la réforme de l'État est nécessaire. Mais somme toute, à ce moment-là, empruntant peut-être à Tardieu, cette idée, le seule chose qu'il verrait comme étant de nature à rénover le système républicain, c'est le référendum. De fait, il va se trouver dans la capacité de constater que les ligues sont très importantes de 34 à 36, date de sa mort, et qu'elles constituent un véritable activisme, dit-il, alors que le parti radical, qui constitue, lui, l'arête dorsale du régime, est devenu passif. Pacifiste, dit Thibaudet dans un jeu de mots. Donc, voilà pour ce qui concerne son appréhension. Et puis Thibaudet est préoccupé, on le disait tout à l'heure, et là, il intervient, c'est rare chez lui, il sort de son rôle d'observateur non engagé, quand il en appelle explicitement à des sanctions contre l'Italie qui va envahir l'Éthiopie.
Alors, nous arrivons peu à peu au terme de notre émission, Michel Lemary, et je souhaiterais évoquer l'actualité d'Albert Thibaudet, car vous pensez qu'il existe bel et bien une actualité de Thibaudet. C'est ce que nous verrons après cette toute dernière pause. À tout de suite.
Canal Académie vous propose une nouvelle rubrique, l'Académie des blogs. On estime qu'actuellement, il s'ouvre un blog toutes les 2 secondes dans le monde et nous ne pouvions pas passer à côté d'un tel phénomène de société, surtout lorsque les académiciens s'y mettent aussi. Alors retrouvez tous les lundis un blogueur du monde de l'édition, de la presse, de l'enseignement ou tout simplement amateur de littérature pour associer l'utile à l'agréable. En compagnie de David Abiker et d'Élodie Courtejoie, nous vous emmenons à la découverte de la crème de la blogosphère.
Nous entamons la dernière partie de notre émission consacrée à ce personnage, à la fois cet historien, ce critique littéraire, ce philosophe que fut Albert Thibaudet. Albert Thibaudet, l'outsider du dedans, un ouvrage de Michel Lemary paru aux presses universitaires du Septentrion. Alors, nous avons évoqué longuement ce personnage, sa position avant la guerre, pendant cette grande guerre. Nous n'avons pas dit qu'il meurt en 1936, donc il ne verra pas ce que Durosel appelait la décadence. Arrêtons-nous, si vous le voulez bien, Michel Lemary, sur le personnage, sur sa personnalité. Vous avez régulièrement, pendant l'émission, mis en avant cette notion, cette idée d'outsider du dedans. Nous avons évoqué aussi le personnage solitaire. Il a un peu l'image du personnage indolent. Je me trompe ?
C'est un indolent actif. C'est un indolent actif qui ne cesse de lire, qui ne cesse de travailler, qui ne cesse d'écrire, et qui, comme La Fontaine, pourrait dire « Je suis oiseau, voyez mes ailes, je suis souris, vive les rats », et qui donc combine ces différents savoirs.
Une joie de vivre, sans nul doute.
Une joie de vivre apparente. Mais en fait, le personnage est éminemment complexe, éminemment secret.
C'est un personnage solitaire. Il n'est pas marié. Hein.
Non, il n'est pas marié. Mmh. Et on ne lui connaît ni compagne ni compagnon.
Mmh. Homme de dialogue.
Incontestablement. Mmh. Homme de dialogue, plus qu'homme de dispute, ou alors au sens de la disputatio classique.
Mmh. Alors, je voudrais mettre en parallèle sa notoriété, hein, la notoriété de Thibaudet à l'époque. Quelle était cette notoriété et aujourd'hui, quelle est l'actualité d'Albert Thibaudet? Que peut-il nous apporter, justement, en période de crise que nous vivons aujourd'hui?
Alors, je crois que Thibaudet, c'est évident, du moins pour moi, Thibaudet est un observateur de la vie politique française et de la vie européenne, de la vie culturelle et de la vie politique. Je crois que c'est quelqu'un qui peut apporter beaucoup à la fois aux littéraires et qui peut apporter aussi beaucoup aux historiens. Pour ce qui est des littéraires, on n'en a pas parlé, mais bon, cette notion de génération qui est au cœur de son histoire de la littérature française est absolument centrale. Alors, sa modernité est patente également. Nombre de ses réflexions paraissent toujours pertinentes. Par exemple, celle sur le romancier, qui est un sujet de dissertation classique. Le romancier authentique crée ses personnages avec les directions infinies de sa vie possible. Le romancier factice les crée avec la ligne unique de sa vie réelle. Ou la fameuse phrase sur l'autobiographie, c'est l'art de ceux qui ne sont pas artiste. Alors voilà, cette critique, effectivement, me semble extrêmement importante, loin d'un formalisme structuraliste. Alors Thibaudet, à cet égard, retrouve une actualité avec ce que j'appellerais, entre guillemets, une réhistoricisation du littéraire que nous avait fait perdre le structuralisme. Voilà pour le côté littéraire. Mais son apport en matière d'analyse politique est absolument considérable. Et René Raymond considère à juste titre que Albert Thibaudet peut être tenu comme le fondateur de l'histoire des idées politiques en France. Bon, un grand nombre de ces analyses sont connues et opératoires. On en a rappelé quelques-unes, l'opposition boursier-héritier, l'opposition et l'endosmose entre Paris et la province, le radicalisme de proconsulat, le radicalisme de comité. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est son sens de la formule. Si je vous le permettais, par exemple, il y en a une que j'aime beaucoup, deux que j'aime beaucoup. L'économiste politique de droite est un économiste, l'économiste politique de gauche est un politique. Et s'il y en avait qu'une qu'il fallait retenir, c'est celle de la République des professeurs. La politique est un ordre autonome. Elle ne sert pas de rallonge ou de supplément à l'économique. Alors, vous voyez, sens de la formule, faconde, verve, une culture hybride, qu'on a souligné à plusieurs reprises, donc qui lui permet de suivre plusieurs séquences littéraires, philosophiques et historiques. Alors, certains aspects de Thibaudet sont datés, notamment quelquefois son style. Thibaudet fait penser par son écriture à un colimaçon.
C'est un style très surabondant.
Tout à fait. Tout à fait.
C'est l'expression, c'est votre expression.
Il n'est pas économe de ses moyens. Mais Thibaudet est précieux à la fois comme analyste, donc, comme jalon, mais aussi, à mon avis, comme éclaireur d'une histoire socioculturelle et politique rénovée. Il est constamment en position d'observateur, on l'a dit, c'est le spectateur non engagé et c'est donc l'outsider du dedans.
Il peut rebuter parce qu'il ne conclut jamais.
Ah, il s'en faisait lui-même reproche. Hein, il disait qu'il maniait plus facilement la balance que le glaive. Et dans cette citation par laquelle on commençait tout à l'heure, toujours des princes lorrains, il disait, parlant de lui-même, « d'assez saine réputation, fécond en point de vue qui se coupait et s'enchevêtrait comme les laillons forestiers, il lui manquait cette part du goût qui est la netteté dans le choix, ce vouloir qui juge, décide, exclut.
Et là, vos derniers mots, hein, d'ailleurs, de votre conclusion, c'est une citation de Thibaudet. Nous ne vivons pas dans un univers simple, mais probablement dans un pluralistic universe à la William James. Toute poussée logique qui prétend suivre indéfiniment une même piste conduit à une impasse. Mais une pensée libre se sent à chaque instant à un carrefour.
Et Thibaudet se sent effectivement, chaque fois, à chaque moment, un carrefour. Et donc, c'est la raison pour laquelle aussi il mobilise l'ensemble de ses connaissances et de ses expériences en refusant d'être, bien évidemment, un doctrinaire. C'est un observateur, ce n'est pas un homme engagé, c'est quelqu'un, effectivement, on l'a dit aussi, bilatéral, mais c'est un homme qui, par-dessus tout, je crois, nous apporte beaucoup, et pour la connaissance de son temps, et par ses méthodes et les objectifs qu'il a définis.
Est-ce que il existe un fatalisme chez Thibaudet? Tout à l'heure, nous évoquions sa joie de vivre, vous la tempériez. Est-ce qu'il existe, oui, ce fatalisme et un certain scepticisme chez Thibaudet?
Il y a une distance, incontestablement, chez Thibaudet. Un des mots qui revient le plus fréquemment sous sa plume, c'est celui de belvédère. Il se situe sur un belvédère, il est dans une position d'observateur.
Eh bien, Michel et Marie, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Canal Académie. Je rappelle les références de votre ouvrage, Albert Thibaudet, l'outsider du dedans, paru aux presses universitaires du Septentrion. Vous avez également préfacé et annoté Albert Thibaudet, la réédition de La République des professeurs, suivie des Princes Lorrains, chez Pluriel, dans la collection Histoire. Il y a également, je citais, ses réflexions politiques, parues dans la collection Bouquins, chez Robert Laffont. Et pour être complet, vous êtes non pas rédacteur en chef, mais membre du comité de rédaction de la Revue Historique, qui est une vieille revue puisqu'elle a été fondée en 1876 par Gabriel Monod. Un des derniers numéros, le numéro 641, le numéro de janvier 2007, est un numéro bien spécial puisque les auditeurs peuvent y retrouver un des tout derniers articles de René Raymond, qui n'est autre qu'une critique de votre ouvrage. Donc Albert Thibaudet, l'outsider du dedans. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire. Restez à l'écoute de Canal Académie.